RCF.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée aux acteurs de la prévention des risques en entreprise. Je suis Joanna Rivière, spécialiste des relations humaines et des dynamiques collectives. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Amandine Born, consultante en management des compétences et intervenante en prévention des risques professionnels. Depuis 15 ans, elle agit aux côtés des entreprises pour renforcer l'efficacité de leurs pratiques RH et faire de la prévention un levier de performance. Ensemble, nous allons vous proposer d'explorer le quotidien des intervenants en prévention des risques professionnels, comprendre leur mission et les défis qu'ils relèvent dans un monde du travail en mutation. Une conversation qui promet d'être riche, concrète et inspirante pour tous ceux qui souhaitent faire de la prévention un levier de performance collective et de cohérence organisationnelle. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace. Bienvenue dans cette nouvelle émission.
Polychrome pour s'épanouir au travail, présenté par Joanna Rivière sur RCF Alsace.
Bonjour Amandine.
Bonjour Joanna.
Ravie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui.
Merci de m'accueillir et puis j'aime beaucoup la présentation que vous avez faite sur le métier des IPRP.
IPRP, eh bien vous allez nous en dire un peu plus. Peut-être commencer par vous présenter ?
Alors, je suis Amandine Born, je suis consultante en ressources humaines et je suis également IPRP, IPRP pour intervenante en prévention des risques professionnels.
Et concrètement, l'IPRP, qui est cette personne? Quel est son rôle?
Alors déjà, c'est un professionnel qui va être reconnu pour ses compétences en santé ou en sécurité du travail. Donc il va accompagner en fait les entreprises dans leur démarche de prévention. Ça veut dire qu'il faut avoir des compétences spécifiques, il faut avoir une formation spécifique et également un certain nombre d'années d'expérience. Et donc il faut être inscrit sur une liste régionale après une habilitation par la DREDS, donc par l'inspection du travail.
Donc vous êtes IPRP, si je comprends bien.
Je suis IPRP, c'est-à-dire que on est d'abord un professionnel de la prévention, puisque si on voulait un petit peu réduire IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels, on pourrait nous appeler des préventeurs. Donc on a d'abord un métier d'origine. Le métier d'origine, ça peut être effectivement RH, ergonome, psychologue du travail, kinésithérapeute, ingénieur sécurité, et on va avoir reçu une habilitation de la part de l'inspection du travail, eh bien pour pouvoir intervenir sur cette spécificité de la prévention des risques professionnels. Ça, c'est quand on est un IPRP externe, c'est-à-dire prestataire ou cabinet indépendant. Mais on peut aussi être un IPRP interne à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on peut se faire habiliter lorsque l'on est salarié d'une entreprise, ou on peut être aussi un IPRP de fait. Ce sont notamment les personnels d'organismes comme les santé de prévention, santé au travail par exemple, les services de santé au travail, la médecine du travail, la CARSAT aussi, ou alors l'OPP-BTP qui sont reconnus directement par leur fonction comme IPRP, donc intervenant en prévention des risques professionnels.
Dans les plus grandes entreprises, on a souvent ce qu'on nomme des référents santé-sécurité. Quel est le rapport entre l'IPRP et ce référent-là? Est-ce que c'est la même personne, cette personne que vous parliez en interne, qui peut être IPRP?
Alors ça peut, mais c'est pas forcément la même personne. C'est-à-dire qu'en fait, le référent sécurité, il va avoir plus une casquette pour piloter des actions sécurité. L'IPRP, il va pouvoir intervenir sur des domaines qui vont être beaucoup plus larges, voire même parfois plus restreints, plus spécifiques. Si on prend par exemple le cas d'un ergonome, l'ergonome il va intervenir sur une étude de poste. Il va y avoir des problématiques au niveau du poste de travail, et bien il va réaliser une étude et après il va faire des préconisations en termes de prévention avec différentes approches, hein, une prévention qui peut être primaire pour vraiment éradiquer la problématique, une prévention qui peut être secondaire ou tertiaire. Et donc là, il va vraiment être spécialisé sur une thématique en particulier. Alors que en entreprise, le référent sécurité, il va vraiment intervenir sur la partie sécurité de façon plus globale.
Et par rapport aux entreprises qui peuvent vous solliciter en tant qu'IPRP externe, c'est quel type d'entreprise ?
Alors, on va avoir tout type d'entreprise et même au-delà de typologie d'entreprise, on pourrait dire quels services de l'entreprise vont nous solliciter. Parce que ça peut être effectivement le dirigeant qui va avoir besoin d'être accompagné, notamment pour renforcer par exemple la sécurité, voir si tout est conforme en termes de sécurité. Ça peut être le service RH qui va nous solliciter parce qu'il y a besoin de faire eh bien une enquête par exemple sur la prévention des risques psychosociaux. Mais ça peut être aussi les CSE, hein, tous ceux qui sont justement chargés du comité d'entreprise, des anciens comités d'entreprise, qui vont pouvoir nous solliciter aussi pour faire des enquêtes sur la prévention des risques professionnels. Ça peut être aussi les délégués du personnel d'ailleurs, pour là toujours les enquêtes harcèlement par exemple, ou RPS, risques psychosociaux.
Donc si je suis un de ces acteurs internes que vous venez de citer et que je souhaite faire appel à un IPRP externe comme vous, vous avez mentionné qu'il y avait différentes personnes qui pouvaient être, avoir ce rôle-là et avec des spécialités différentes. Quels sont peut-être les domaines d'expertise vers lesquels je devrais me tourner? Est-ce que j'ai une démarche particulière ou des personnes de préférence?
Oui, alors en fait, la question, ce serait comment trouver un IPRP. Parce que déjà, il faut connaître les IPRP, il faut savoir que ça existe, hein, les intervenants en prévention des risques professionnels. Et en fait, il y a deux possibilités. Soit effectivement, vous contactez votre service de médecine du travail, et là, vous allez pouvoir avoir des IPRP, hein, ce sont ceux qui sont des IPRP de fait, et ils vont pouvoir vous accompagner sur différentes thématiques, notamment, ils ont souvent des ergonomes. Il y a aussi également des psychologues du travail, donc pour intervenir sur les fameuses enquêtes dont on parlait ou pour les études de poste. Mais vous pouvez également aller sur le site de la DREDS et là vous allez retrouver la liste des IPRP externes qui sont habilités et dessus on va retrouver à chaque fois les spécificités. Parce que là on a parlé beaucoup notamment sur la partie qualité du lieu de travail, mais il y a également la prévention des risques chimiques par exemple. Et donc là si on veut une spécificité en particulier, sur la liste on va retrouver enfin l'ensemble des IPRP qui sont habilités sur la région. Avec leur nom, prénom, coordonnées, tout ce qui va bien.
Donc, plus qu'à aller se connecter sur le site ou en tout cas prendre contact avec un acteur de référence qui est la médecine du travail locale pour avoir des informations.
Si vous souhaitez effectivement faire appel à la médecine du travail, et après si la médecine du travail n'a pas justement la compétence peut-être en interne, d'aller sur la liste des IPRP qui sont habilités.
Donc ces IPRP ou intervenants en prévention des risques professionnels, par rapport à l'entreprise, ils ont aussi un rôle à jouer important au niveau d'une démarche de prévention.
Oui, alors en fait, souvent, on est sollicité quand il y a une problématique. C'est mieux quand même d'arriver en amont pour prévenir justement les risques. Il y a un outil hein, d'ailleurs que vous connaissez peut-être, Johanna, le document unique.
Cet outil qui fait grincer des dents souvent.
Qui est obligatoire à partir d'un salarié. En fait, ce document, il va permettre de recenser l'ensemble des risques liés à l'activité professionnelle. Et l'objectif, c'est de pouvoir identifier quelles sont les actions de prévention qui ont déjà été mises en place et quelles actions de prévention on va pouvoir mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IPRP, ou en tout cas la prévention, on va pouvoir intervenir sur différents domaines. Que ce soit sur la partie physique, on parlait justement d'études de poste avec les gestes, des postures. On parle aussi d'IPRP qui interviennent sur la prévention gestes et postures, prévention aussi des troubles musculo-squelettiques, sur également les thématiques psychologiques et sur les thématiques organisationnelles.
Te veo menos de lo que quisiera, te pienso más de lo que debería. Dije que ya te olvidé, pero ni yo me creo esa mentira.
Me pasan días mirando pa'l techo, y entre ilusiones tuyas me diluyo. Y de todo lo que pude ser, yo decidí ser tuyo.
Dime por qué, si éramos uno para el otro. ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida?
Estamos horas hablando sin tener que decir nada. Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada.
Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños. Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño. Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir. Porque las dos. ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir?
Des professionnels transforment votre quotidien. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace.
Nous sommes toujours avec Amandine Born et nous parlons de la prévention des risques professionnels en entreprise. Amandine, j'aimerais que l'on puisse parler des interventions concrètes des IPRP qui sont les intervenants en prévention des risques professionnels dans les organisations. Quel type d'accompagnement proposez-vous en tant qu'IPRP aux entreprises ?
Alors moi, en tant qu'IPRP, j'ai donc une casquette RH, ressources humaines, et donc je vais intervenir principalement sur des thématiques qui vont concerner l'organisation et également les thématiques psychologiques. Donc par exemple, quand même la base, ça va être la réalisation du document unique.
On en parlait justement tout à l'heure.
Oui, parce que c'est un outil déjà qui est obligatoire à partir d'un salarié, c'est quand même l'outil de base pour identifier les risques liés à l'activité professionnelle. Donc ça reste un outil central, c'est pas celui en général que les entreprises préfèrent. Néanmoins, on peut le faire déjà de façon collaborative. Ça veut dire qu'on va pouvoir intégrer les collaborateurs, des gens en fait à leur poste de travail. Ils vont réfléchir sur leur poste de travail et les risques liés au poste de travail. Et donc, ils vont pouvoir être acteurs de leur propre prévention.
Est-ce que vous auriez un exemple concret d'une entreprise que vous avez accompagnée récemment ?
Alors oui, en fait, ce qu'on met en place, c'est qu'on avait déjà une base de documents uniques. Il faut savoir aussi que, notamment, les services de médecine du travail vont avoir des documents uniques qui sont digitalisés, donc soit avec un support Excel, soit avec un support directement sur un site internet, qui permet quand même de faciliter la réflexion. On peut retrouver aussi des outils sur le site de l'INRS, qui est vraiment aussi un des acteurs avec lesquels on travaille beaucoup, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources sur leur site. Et en fait, l'idée, c'est de partir de l'existant, ce document unique qui restait, en fait, sur l'ordinateur. Personne l'avait lu à part la personne qui l'avait rédigé. Et donc là, en fait, on l'a dépatouillé, on l'a détricoté et des salariés et des managers ont passé en revue, en fait, des unités de travail. Et on dit là on est ok, là on n'est pas ok, ou là tiens on a mis en place des nouvelles actions, on pourrait mettre en place des actions. Ce qui fait que finalement les collaborateurs et managers deviennent eux-mêmes ambassadeurs de ce document unique et surtout ambassadeurs de la prévention en entreprise.
Donc c'est un outil qui est au service à la fois d'un diagnostic ou un audit, on pourrait dire ça comme ça, de ce qui est fait, pas fait sur certaines grandes thématiques, mais également qui peut servir à questionner l'organisation sur sa façon de fonctionner et les risques potentiels qu'elle peut rencontrer.
Oui, parce qu'en fait, à l'issue d'un document unique, on va mettre en place un plan d'action, un plan d'amélioration. Et dans ce plan d'amélioration, il va y avoir des actions qui vont avoir des conséquences aussi sur la politique RH de l'entreprise. Et par exemple, sur la partie organisation, on va se rendre compte que l'entreprise, elle n'est pas hyper bien organisée. Le qui fait quoi ? Et donc, ça va amener aussi des missions pour réaliser les fiches de poste ou les matrices RACI. Attention, pas comme le pain qui est tout dur, mais effectivement comme une matrice qui permet d'identifier qui réalise, qui autorise, qui contrôle et qui et informé. Et donc ça va vraiment permettre d'avoir une photographie des différentes missions à réaliser et surtout de définir le périmètre d'intervention des uns et des autres. Donc ça va réduire le stress, ça va aussi permettre de mettre du sens et également de connaître les attentes par rapport au poste de travail.
Plus de clarté, moins de flou, plus de responsabilité et de co-responsabilité.
Tout à fait. Et du coup, après, ça permet également de mettre en place différentes actions. Ça va être des ateliers, de la formation, de la sensibilisation. Ça, c'est aussi des outils qui sont à disposition des IPRP. Mais là, je parle de ma casquette, effectivement, RH.
Et vous vous appuyez certainement sur des partenaires locaux.
Oui, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, un préventeur, en fait, il peut pas tout faire. Et donc, c'est tout l'intérêt aussi de pouvoir travailler en réseau. Donc, on va pouvoir travailler déjà entre IPRP, parce qu'on va avoir des spécialités qui sont différentes. Moi, j'aime travailler avec des gens qui sont spécialisés, notamment en santé, qu'ils soient kinés ou coachs sportifs, pour travailler sur les gestes et postures. Et donc, ils vont intervenir en entreprise pour pouvoir donner des astuces pour pouvoir réchauffer, étirer. Et d'ailleurs, on avait reçu dans une précédente émission Stella et Astrid, qui sont coachs et qui avaient expliqué comment mettre en place des pauses actives en entreprise. Donc, si vous voulez réécouter...
On vous invite du coup à retourner sur le podcast et retrouver l'épisode effectivement. Et donc ces actions là que vous évoquez permettent d'intervenir en mode préventif sur des troubles musculo-squelettiques.
Par exemple, et on peut intervenir du coup de façon collaborative. Il faut savoir que d'ailleurs au niveau national, il y a une association qui existe, l'association des IPRP. Et en fait cette association, elle va permettre de structurer le métier, d'apprendre aussi à nous connaître. De connaître l'ensemble des spécificités, puisqu'on ne connaît pas toujours les spécificités des uns et des autres. Et puis surtout, on va travailler sur une montée en compétences, sur la veille professionnelle, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent très régulièrement.
des obligations légales effectivement qui existent sur les risques professionnels.
Bah, par exemple, le 1er juillet, on a un décret d'application hein, qui a été publié par rapport à la chaleur. Donc on en a beaucoup entendu parler, où il faut mettre à disposition de l'eau fraîche. Il faut aussi également ajuster les horaires de travail suite aux fortes températures. Mais il faut savoir qu'en fait, ça existait déjà avant. C'est juste un rappel par rapport à des choses qui sont à mettre en place quand il y a des températures extrêmes, que ce soit de très fortes chaleurs ou du très fort froid.
Vous parliez de travail en réseau. Il me semble que certaines entreprises ont le droit aussi à des aides pour mettre en place certaines actions de leur plan d'action.
Oui, tout à fait. Alors, on peut avoir des aides au niveau de la CARSAT qui va pouvoir proposer un financement ou un cofinancement, en tout cas une participation. Je citerai par exemple le FIPU, encore un autre acronyme, mais en tout cas qui va permettre d'accompagner sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques, grâce à un cofinancement sur du matériel par exemple.
Il y a quelques mois, vous avez également reçu dans cette émission Vincent Beau, l'initiateur du projet 4121. En quoi ce projet fait-il sens pour vous ?
Alors c'est effectivement aussi une émission qui est possible d'être écoutée à nouveau en podcast. Et Vincent Beau, alors même s'il est beau, son nom de famille s'écrit B-A-U-D. Et en fait, c'est l'initiateur du projet 4121, comme l'article du Code du Travail L4121, qui place la santé-sécurité au centre, en fait, de l'intervention des entreprises. Ce qui est important dans ce projet, en fait, c'est que c'est en fait une grande étude nationale qui est menée. Et donc les IPRP sont partie prenante, puisque les IPRP, référents de ce projet, accompagnent gratuitement les entreprises qui décident de s'investir sur cette expérimentation pour montrer que l'écoute au travail, l'écoute des travailleurs, ça fonctionne sur la qualité de vie au travail et ça fonctionne bien évidemment sur la performance.
Selon vous, en quoi ce projet incarne-t-il une nouvelle vision de la prévention des risques en entreprise ? Quelle est sa singularité ?
Alors déjà, on va avoir des outils, des actions concrètes. On va notamment avoir des entretiens d'écoute qui sont dédiés spécifiquement à la qualité de vie au travail, à la santé mentale, la santé physique, la santé sociale aussi des travailleurs. Travailleurs, j'entends les salariés, mais également les dirigeants. Et donc en fait, ces entretiens sont différents des entretiens annuels et des entretiens professionnels. Et puis on va avoir également des temps de management collectif, les TMC, qui sont en fait des ateliers mensuels qui regroupent les managers et leur équipe, donc le manager et leur équipe, pour pouvoir échanger sur les irritants. Et au-delà d'échanger, hein, puisqu'il y a l'écoute, mais il y a aussi l'évaluation, il y a l'action, c'est de mettre en place des actions qui vont permettre de changer le quotidien, donc d'améliorer la qualité de vie au travail, donc la santé des collaborateurs et des dirigeants, mais également la performance des entreprises. Et donc c'est une grande enquête, c'est une grande recherche hein, qui est menée sur 3 ans, où effectivement on est associé à un laboratoire de recherche du CNAM qui va étudier différents indicateurs pour montrer que l'écoute, ça fonctionne.
Donc un beau projet d'innovation sociale en résumé.
Un projet d'innovation sociale qui regroupe des IPRP de toute la France. Donc si effectivement il y a des IPRP qui souhaitent s'intégrer, s'investir dans ce projet, ils sont tout à fait les bienvenus. Ils peuvent nous contacter, ils peuvent même me contacter puisque accessoirement je suis la référente du groupe Alsace pour le projet 4121. Et l'idée c'est aussi encore s'il y a des entreprises qui souhaitent s'investir aussi dans ce projet, et on peut également avoir des référents associés. Ce sont en fait des gens qui ne sont pas IPRP, qui donc n'ont pas l'habilitation, mais qui vont pouvoir quand même accompagner les entreprises dans ce projet.
Polychrome, pour s'épanouir au travail, RCF Alsace.
Nous poursuivons notre échange sur la prévention des risques professionnels avec Amandine Born. Je vous propose de continuer notre discussion sur les nouvelles attentes au travail et notamment avec un constat. Ces dernières années, le contexte et les environnements de travail évoluent.
Alors oui, Johanna, on constate une très forte évolution et notamment une très forte transformation du travail et des espaces de travail. Rien que déjà, suite à la crise Covid, le télétravail qui s'est quand même bien développé, avec parfois aussi un retour en arrière, on revient dans les bureaux, et quand même une envie de la part des collaborateurs d'une flexibilité. Une flexibilité pour une meilleure conciliation entre la vie perso et la vie professionnelle, et également un management plus participatif où les gens vont être du coup impliqués dans les décisions, retrouver du sens, être écoutés, avoir une meilleure qualité de vie. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des attentes croissantes sur la santé mentale, la reconnaissance et l'équilibre de vie.
Et est-ce que ces trois thématiques, font émerger de nouveaux risques ?
Eh bien oui, parce que par exemple, si on prend le télétravail, eh bien en fait, on va avoir un isolement qui va être plus important. Et donc, on va avoir des gens qui finalement, même s'ils ont un travail, parce que le travail, c'est aussi source de sociabilisation et de socialisation, ces gens vont se retrouver malgré tout isolés. Ils vont avoir des contacts, mais ils vont quand même se sentir seuls, notamment s'ils ne vivent pas avec d'autres personnes. S'ils ne vivent qu'avec leur chat, par exemple, eh bien du coup, ils vont manquer d'interaction sociale. Donc, ça va être important aussi de prendre ceci en considération, notamment dans la prévention des risques psychosociaux et dans les actions qui vont pouvoir être mises en place.
Les relations humaines étant un facteur de protection de sa santé mentale.
Oui, même si on a des relations avec des êtres vivants, je prenais l'exemple du chat, le besoin de relations humaines est primordial. Et donc, comment les entreprises vont faire pour accompagner ces télétravailleurs, parce que certains sont même en télétravail à 100%, comment réussir à les accompagner pour prévenir justement ces fameux risques psychosociaux et surtout prévenir les risques sur la santé mentale et physique des collaborateurs?
Cette dimension préventive, ou en tout cas d'anticipation, est un choix stratégique pour le dirigeant aujourd'hui.
Oui, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'un investissement, à un moment donné, on va y mettre de l'argent. On ne sait pas quel va être le retour sur investissement, mais pour moi, ça fait partie aussi de l'engagement des entreprises aujourd'hui, de pouvoir, eh bien, non pas répondre à des problématiques qu'on rencontre sur le terrain, mais pouvoir les anticiper. On ne pourra pas tout sécuriser, mais l'idée, c'est quand même déjà d'en être conscient, de mettre en place des actions. Et là, l'IPRP va avoir toute son importance pour justement identifier les risques potentiels, mais également d'identifier des actions qu'on peut mettre en place. Des cellules d'écoute, des moments aussi de travail collaboratif, de revenir aussi ensemble, soit dans un espace de coworking, soit dans un espace de travail tous ensemble dans l'entreprise.
J'ai effectivement l'exemple d'une entreprise qui a des commerciaux à distance, qui travaillent du coup de chez eux, et qu'elle oblige, ou en tout cas qu'elle invite à se rejoindre sur un coworking au moins une fois par semaine, afin de pouvoir créer cette dynamique collective et puis créer ces liens sociaux qui permettent effectivement de garder un mindset positif ou un état d'esprit, en tout cas de travail d'équipe.
Et au-delà de l'état d'esprit, c'est aussi la culture d'entreprise. Si chacun travaille dans son coin, on n'a pas le collectif. Et donc pour travailler le collectif, à un moment donné, c'est important aussi. Vous voyez, ce que là on est en train de dire, Johanna, c'est qu'on parle d'éléments de prévention. On parle de prévention de risques psychosociaux. Et finalement, on arrive à parler de culture, de politique d'entreprise. Et donc ça va avoir un impact beaucoup plus global que simplement la santé ou la sécurité. Ça va vraiment avoir un impact global sur l'entreprise.
Je parle souvent de culture, moi, d'entreprise.
Oui, et la culture d'entreprise, c'est important. Ça donne du sens, ça permet de travailler le collectif, ça donne de l'engagement et forcément, ça donne de la performance.
Et ce sentiment de s'identifier ou en tout cas d'une certaine identité d'entreprise.
L'appartenance, ça c'est important, effectivement.
Quel levier les dirigeants peuvent-ils activer pour passer d'une logique de conformité à une logique d'anticipation ?
Alors déjà, c'est une prise de conscience et c'est l'envie. Tout part, et vous l'avez dit, Johanna, du dirigeant. C'est-à-dire que le dirigeant, c'est lui qui va actionner. Si le dirigeant, déjà, n'est pas exemplaire sur la partie sécurité, santé au travail, c'est-à-dire s'il ne prend jamais de congé, si quand il va au dépôt, il ne met pas ses chaussures de sécurité.
Les fameuses EPI.
Voilà, les équipements de protection individuelle. L'exemplarité et la motivation, c'est déjà un point très important. Et ensuite, il va falloir aussi rassembler. Il y a des gens pour lesquels, et je le vois quand j'interviens en entreprise, c'est n'importe quoi, vous dites tout de suite qu'il y a des choses qui vont pas bien, mais nous en fait notre travail ça va, ou alors moi j'ai pas envie de faire mes étirements parce que de toute façon mon dos est déjà cassé. Bah oui, mais comment faire en sorte que votre dos ne soit pas encore plus cassé? Et comment finalement mettre encore en place des actions de prévention? Donc les dirigeants vont pouvoir impulser, mais ça va être important aussi d'avoir des ambassadeurs dans l'entreprise qui vont pouvoir rassembler.
Ce que vous évoquiez tout à l'heure, de le faire en mode collaboratif, va permettre d'impliquer, d'engager les collaborateurs aussi, avoir cette démarche d'acteur du changement ou d'acteur de la prévention.
Le meilleur préventeur, c'est soi-même. Le meilleur préventeur, meilleur acteur de sa propre santé et sécurité, c'est soi-même.
Amandine, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous propose de conclure avec peut-être un dernier message que vous aimeriez déposer ici.
Alors les IPRP, les intervenants en prévention des risques professionnels, ce sont en fait des acteurs stratégiques. On les connaît très peu, ce sont des acteurs stratégiques au niveau de la prévention. On connaît souvent les services de médecine du travail, mais pas forcément les IPRP externes. Et je pense qu'en fait c'est vraiment important de prendre conscience de cette expertise pluridisciplinaire et surtout l'ancrage terrain qui va permettre en fait d'inscrire la prévention comme un levier de performance durable.
C'était Polychrome pour s'épanouir au travail. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cette émission consacrée aux intervenants en prévention des risques professionnels. Merci à Amandine Born pour ses partages éclairants, son regard d'experte et son engagement constant pour faire avancer la prévention dans les entreprises. Au fil de notre échange, nous avons découvert les multiples facettes du métier d'intervenant en prévention des risques professionnels, la richesse de leur approche pluridisciplinaire et les opportunités d'évolution pour faire de la prévention un pilier durable des organisations de demain. J'aimerais également remercier Théo Guindoni pour l'assistance technique et la qualité de son accompagnement. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à poursuivre la réflexion dans votre organisation. Vous le retrouverez en podcast sur notre site internet rcf.fr/Alsace. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos équipes.